This is something that the ALAC started doing. You know the ALAC. At one point, it was a hospital. All these consumer protection demands and, you know, grab all these domain names and domain or nothing set on auction. You guys are evil. As we get into more of these topics, that realize we're the legislators are the only people standing up for. So we've been working with that. Anything interesting come out of the compliance in the care left, or is it finish?
Someone from Phileas mentioned the idea of having incentives so that their programmers have something to like work toward, and Maggie was kind of like, well, it should be, you know, because you want to. And then there was another person, I don't remember his name. He was talking about having some sort of recognition that you could sort of maybe advertise saying that you have 100% in this area.
Kind of as, you know, I think we might start. Yeah, like, so should we set the recording?
Eh bien, je crois que nous allons pouvoir commencer. Merci beaucoup. Holy Reich au micro. Il s'agit de la table ronde. Nous sommes mercredi. Oui, nous sommes mercredi. Table ronde sur les politiques d'at-large. Merci beaucoup d'être venu. On va demander aux personnes de se présenter. On va faire un tour de table. Et vous allez nous donner votre affiliation également. Et ensuite, nous allons parler de la première partie, anonymisation et enregistrement fiduciaire. Et ensuite, nous parlerons d'autres thèmes. Donc, veuillez, s'il vous plaît, nous indiquer votre nom. Eduardo, vous êtes là? Oui, merci. Eduardo Diaz, ELAC. Mohamed Béchir, Afralo. Stéphanie Perrin, NCSG. Grenban Tim, je suis d'un bureau d'enregistrement. Tom McKenzie, OP3 FTI. Je ferai une courte présentation durant la séance. Stéphane Van Gelder, je suis avec Tom sur LP3 LT. Sarah Baki, GoDaddy. De GoDaddy également. Evan Libovitch, modérateur de la deuxième séance. Je remplace Garsruin. Je suis vice-président de l'ALAC. Holy Reich, donc Internet Society d'Australie. Sylvia Vivanco, du personnel. Gisela Gruber, du personnel de l'ICANN également. Oui, David Sabedoff. Je suis de New York, Epiralo, John LePriest, Naralo, Dave Piscatero, personnel de l'ICANN. Oui, merci beaucoup. Gisela, est-ce que nous pouvons présenter les transparents et avoir donc un écran complet pour cela? Oui, d'accord, très bien. Oui, Eva Lawson. Caroline Wen de Microsoft. Don Bach de l'Université de l'Indiana. Merci beaucoup de ces présentations. Nous allons passer au premier transparent. Oui, Maureen, pourrais-je me présenter? Oui. Oh, vraiment, ce transparent est trop petit pour le moment, nous ne pouvons pas le lire. Oui, merci donc, Fatima Cicela, Afralo. Oui, donc je n'ai pas besoin de voir ma photo, Oli Reich au micro. Vous pouvez mettre le transparent en caractère plus grand, s'il vous plaît. Oui. Anthony, vous êtes presque en retard. Donc, merci à toutes et à tous. Voilà de quoi nous allons parler aujourd'hui. Donc, j'espère que ce n'est pas trop ennuyeux. C'est important d'avoir quelques éléments historiques par rapport au problème d'anonymisation et de registrement fiduciaire. C'est la question de « who is » qui se pose. Vous avez peut-être été à la séance « who is » et vous en avez déjà peut-être entendu un petit peu parler, mais vous n'avez peut-être pas eu toutes les informations nécessaires. Donc, voilà l'ordre de ma présentation. Vous me connaissez et je veux vous informer de la situation. Donc, nous allons passer au transparent suivant, au sujet de « who is ». Nous avons la personne du SCSI qui nous a parlé. Les données d'enregistrement, on a parlé du terme « données d'enregistrement », mais vous savez qu'on utilise le terme « who is », que l'on laisse tel quel dans toutes les langues. Ce sont les informations, les données qui sont publiques, qui doivent être publiques. Et il y a une tension très forte qui existe. Historiquement, les informations WHOIS ont été donc toujours publiquement très ouverte, mais il y a beaucoup de problèmes au niveau de l'anonymisation, donc du respect de la vie privée. Il y a eu des lois sur le respect de la vie privée, c'est des lois fortes ces 30 dernières années. Donc il y a toujours une tension qui existe entre les critères de who is, identifier qui ils sont sur who is, donner beaucoup d'informations sur eux-mêmes. Ça a été basé sur des documents fondamentaux qui sont assez ancien maintenant, et ça, il y a une violation, en fait, du respect de la vie privée, de nombreuses lois qui font respecter la vie privée, qui donnent un droit à la vie privée, à l'anonymisation. Donc, quels sont les critères? Les bureaux d'enregistrement ont un accord avec l'ICANN, il y a des accords, je crois que c'est 3.1, 3.8, qui dit voilà ce qui doit être disponible publiquement, nom, identité du titulaire du nom de domaine, date, adresse postale de la personne inscrite. Ça, c'est la personne qui est titulaire, qui est en fait titulaire du nom de domaine, le registered name holder, c'est comme registrant. Donc, nous avons l'adresse postale, les coordonnées, adresse email, vous avez tout cela sur l'écran. Mais voilà ce qui représente un problème. Ce sont des données WHOIS qui sont disponibles, qui sont publiques. Donc, transparent suivant, s'il vous plaît. Holly Reich au micro. Lorsque nous avons des problèmes avec WHOIS, ils existent depuis longtemps. En 2009, j'ai commencé à travailler à des négociations qui avaient trait justement aux critères WHOIS. Et à l'époque, nous avions des inquiétudes sur la véracité et la précision de ces données, de cette base de données. Et il y avait deux raisons à cela. Pourquoi est-ce qu'il y avait beaucoup d'inexactitudes? Parce que la personne ne voulait pas s'identifier, ne voulait pas être identifiée. Ou bien c'est une personne donc, qui le faisait exprès. Il y a des différentes raisons pour que ces personnes ne voulaient pas être identifiées. Elles étaient parfois criminelles. Donc la question se posait, voulait-il qu'il y ait des données précises à leur sujet ? Oui, je ne sais pas si vous voulez qu'on vous interrompe avec des questions, mais je voulais rebondir là-dessus, puisque je fais partie de l'équipe qui analyse le WHOIS. Je voudrais signaler que on nous dit que seuls 23% des données WHOIS sont précises et exactes. Ça ne montre pas exactement la situation du who is. Alors, c'est pour cela qu'il y a ces problèmes, en effet, d'inexactitude. Donc, ce n'est pas en noir et en blanc, c'est beaucoup plus une zone d'ombre, beaucoup plus à ce niveau pour who is. Il y a 23% des données who is qui sont totalement exactes et pour une grande partie des données who is, ça ne pose pas de problème. Parfois, ce manque d'exactitude, ces petites inexactitudes ne posent pas de problème fonctionnel, n'empêchent pas le programme de fonctionner. Donc, c'est tout simplement cela que je voulais dire. Non, James, vous avez tout à fait raison. Nous devons faire plus pour l'exactitude de ces données. Néanmoins, la conclusion du rapport nous dit, et ça, c'est une équipe qui a fait un rapport qui est toujours disponible, que vous pouvez lire, il y a un lien hypertexte vers ce rapport. Vous avez les résultats qui sont indiqués ici, si vous le désirez. Donc la conclusion du rapport, c'était que le niveau bas de précision était inacceptable. C'est ce qui est marqué à l'écran. C'est difficile à lire, c'est écrit très petit maintenant, ce prochain transparent. Mais il y a plusieurs raisons. Des raisons légitimes pour lesquelles on utilise ces services d'enregistrement fiduciaire pour des personnes, pour des réfugiés, des femmes qui ne veulent pas indiquer toutes leurs informations, leurs contacts, entités religieuses et ainsi de suite, donc entreprises. Donc c'est très vaste. Beaucoup de personnes veulent utiliser ce qu'on appelle en anglais des proxys ou enregistrement fiduciaire. Il y a de nombreuses raisons pour cela, ne veulent pas que leur nom soit indiqué, soit publié, parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes à ce niveau. Il y a eu des abus également au niveau de l'enregistrement fiduciaire, des gens qui se cachaient, qui voulaient absolument se cacher en utilisant un enregistrement fiduciaire. Donc, c'est assez complexe. Nous reconnaissons dans le rapport final qu'il y a de très nombreuses raisons pour que certaines personnes utilisent à bon escient des enregistrements fiduciaires. Donc, je crois qu'il faut se pencher plus sur ces enregistrements fiduciaires, bien comprendre ce qu'ils font, qui devrait y avoir droit, et ainsi de suite. Voilà, dans le rapport final, les recommandations. Qu'il y ait un système plus cohérent, beaucoup plus cohérent, justement, pour ces services d'enregistrement fiduciaire. Et ça, c'est important, par rapport à l'anonymisation également, par rapport aux lois nationales sur le respect de la vie privée. Il faut trouver le bon équilibre. Donc, dans le RAA de 2013... Comme conséquence de cela, il y a eu une nouvelle clause 3.14 qui a indiqué que les bureaux d'enregistrement doivent se conformer à des spécifications adoptées par l'ICANN ou des lignes de conduite qui établissent un enregistrement fiduciaire. Ça, c'était dans le RAA de 2013. On attendait des avancées également avec le travail du GNSO, avec le PDP qui allait être plus précis pour ces questions. Donc les bureaux d'enregistrement doivent se conformer à cela jusqu'à ce que le groupe de travail anonymisation et enregistrement fiduciaire nous donne des caractéristiques, des spécifications plus précises. Oui, James, vous voulez intervenir une nouvelle fois? Oui, lorsqu'on a dit que c'était temporaire, spécification temporaire, c'est le terme d'utiliser. Est-ce qu'il y a une date, un calendrier à cela? Donc je crois que le 1er janvier 2017. Donc c'est une date sunset qui permet donc de donner du temps pour effectuer ces changements. Parce que ce sont en effet des projets complexes qui prennent du temps. Et je crois que Ken Bonton, qui est le vice-président de cela et qui a travaillé et qui travaille au PDP, le PDP avance beaucoup et je crois que nous allons pouvoir résoudre ces problèmes. Il y a une date d'expiration à cette politique, donc ça a forcé un petit peu tout le monde à avancer rapidement. Oui, 2017. Je me suis dit, mais est-ce que je vais encore travailler à tout cela en 2017, me disais-je. Mais moi, je suis optimiste, nous allons tenir les délais. Très bien. Donc, voilà ce que doivent faire les bureaux d'enregistrement en attendant le travail final du groupe de travail, la conformité par rapport à ces spécifications, et vous avez une liste, vous le voyez, les termes de service doivent être disponibles publiquement, l'identité du prestataire, le prix, la tarification, donc. Il y aura des données du client qui seront requises, expliquant comment elles seront révélées, le transfert à un autre bureau d'enregistrement éventuel, si vous utilisez un service anonymisation enregistrement fiduciaire, gestion des plaintes, où sont les données et en cas d'allégation de conduite frauduleuse. Et ça, il faut définir ces termes d'un petit peu plus, de manière un petit peu plus précise. Donc ça, c'est pour le moment ce que nous avons. Ce sont des spécifications provenant du GNSO, provenant du groupe de travail du GNSO, qui travaille donc à des spécifications finales. Donc c'est un travail intérimaire qui n'est pas totalement fini. Alors, lorsque l'on a travaillé en groupe, nous avions une question pour une charte, pour lancer notre charte, et les principales questions qui devaient être réglées étaient nombreuses. Et ça, c'est pas un ordre très logique. Donc, ce qu'on a fait tout d'abord, c'est de parler et de regrouper toutes les questions pour la charte auxquelles on devait répondre. On essayait de les grouper logiquement pour travailler d'une manière intelligente, pour essayer de régler un petit peu ces nombreuses questions de spécification des services d'anonymisation et d'enregistrement fiduciaire. Quels seront les tests? Qui fera l'accréditation? Comment est-ce que ça va fonctionner? Qu'est-ce qui va se passer si quelqu'un ne se conforme pas à ces règles? Est-ce qu'il y aura des sanctions? Qu'en est-il de cette conformité? Beaucoup de problèmes, donc, soulevés, différences entre l'anonymisation, l'enregistrement fiduciaire, quelles informations doivent être révélées. Et la terminologie est essentielle lorsque l'on parle de cela. Les données d'un service anonymisation, enregistrement fiduciaire, dans le contexte de ce concept, relayé, lorsqu'on parle du terme relayé, nous avons un prestataire de service qui peut obtenir une demande d'information. On peut lui demander de relayer des demandes ou des informations au client. Révéler, ce n'est pas la même chose. Là, les données au sujet du client du service d'anonymisation dans le registre fiduciaire sont révélées à une personne qui demande l'identité de ses clients. Donc, nous avons dû véritablement définir ces termes d'une manière très claire pour bien comprendre de quoi on parle, parce que c'est complexe. Et nous avons dû prendre en compte les différentes circonstances et à chaque fois se poser des questions à ce sujet. Nous devons gérer les problèmes de transfert, et je vais revenir là-dessus. Qui accrédite? Qui vérifie? Qui supervise? Et on n'a pas encore répondu à ces questions, donc on y travaille actuellement dans ce groupe de travail GNSO. Mais on fait de grandes avancées, je dois le dire. James, vous voulez intervenir une nouvelle fois? Oui, avec ce groupe de travail, il y a une distinction très forte entre révéler et publier. Je crois que ça, c'est essentiel. Révéler pour une demande, à la suite d'une demande, une demande unique. Je crois que pour les consommateurs, cela fait beaucoup plus de sens. Est-ce qu'on doit révéler qu'il y a eu une plainte, révéler qu'il y a eu une demande, ou bien révéler l'identité? Toutes ces questions se posent, donc on essaie de trouver ce qui fait le plus sens pour les consommateurs, ce qui est exposé publiquement. Donc il y a les questions de responsabilité civile qui se posent également. Donc c'est vraiment un débat très intéressant que nous avons eu et que nous aurons encore. Donc le GNSO, ah oui, GNSO, c'est pas la lettre O que vous avez mis, c'est le zéro. Mais le GNSO, c'est évidemment avec une lettre O, vous voyez. Je prête attention aux détails, excusez-moi, oui, en effet, ça c'est le titre du transparent. Donc ça c'est une petite variance. Et nous allons modifier cela, cette erreur typographique. Oui, James, je vous promets, cela sera réglé et corrigé. Donc, nous passons au transparent suivant. Aux premières conclusions, on vient d'en parler un petit peu. Notre groupe de travail, donc, ça peut sembler évident, hein, mais c'est important que cela soit mis noir sur blanc et couché sur le papier. On a déjà des spécifications qui existent. Ces caractéristiques doivent être rappelées. Nous avons un produit final qui sera le produit de ce groupe de travail. Même si on dit et redit des évidences, il faut le faire. C'est essentiel. On doit relayer aux clients les demandes dans le cadre du RAA ou d'une politique par consensus de l'ICANN. Ça, c'est clair, c'est simple, mais ça doit être redit. Pour tous ces services d'anonymisation et d'enregistrement fiduciaire, c'est la transparence qui est en jeu. Ces services doivent totalement connaître leurs droits, leurs obligations et tous les détails. Lorsque les informations seront révélées, relayées, tous les cas de figure de transfert, et ça a trait à un client potentiel qui peut avoir des inquiétudes par rapport à ce respect de la vie privée, les meilleures pratiques également. Et je reviendrai là-dessus. Le transfert j'en reparlerai au transparent suivant. On a toujours ces problèmes commerciaux. Donc, on veut éviter que les données des clients soient divulguées lorsqu'il y a un transfert qui se déroule. Donc, nous devons préciser encore tout cela. C'est pour cela que le groupe de travail n'a pas terminé sa tâche encore. Je crois que nous sommes repartis en arrière, non? Oui, on peut repartir. Oui, les premières conclusions. Donc, une observation que j'aimerais faire. Lorsque vous dites qu'il faut relayer au consommateur ses demandes, ses actions. Dans le cas d'un domaine criminel, par exemple, un domaine qui, au quotidien, est un botnet, est-ce que, si ce domaine est protégé, le bureau d'enregistrement ou l'opérateur qui s'occupe de cela est obligé de contacter le criminel? Est-ce qu'on dit, oui, nous allons retirer votre DGE? Donc, je crois que vous parlez de relayer au client. Je ne comprends pas très bien si vous... Moi, j'ai dit un critère visant à dire, à expliquer au client. Oui, j'ai besoin, en effet, que l'on clarifie cela. Parce que lorsqu'il y a une enquête criminelle... Que va-t-on faire? Numéro un, doit relier à leur client toute note. Oui, absolument. Donc, je reviens un petit peu en arrière. Et j'irai même plus loin. Dans nos débats, nous avons commencé à faire la distinction entre les critères qui proviennent des agences de maintien de l'ordre. Ça, c'est un certain contexte, le maintien de l'ordre. Et d'un autre côté, les activités non criminelles, n'étant pas d'une nature criminelle. Ce que nous avons entendu dire de la part de notre président de groupe de travail, c'est que on ne va jamais demander ce qu'il y ait un relais, mais on va demander... Si ce sont des forces de maintien de l'ordre, ils vont demander l'identité de la personne. Dans ce cas-là, on ne va pas relayer. Donc, non, mais vous savez, toutes les activités criminelles, elles ne sont pas toujours poursuivies par les forces de l'ordre. Les suspensions pour les domaines générés par des botnets, par des systèmes automatiques, là, c'est une autre question. Il n'y a pas de criminel, de personne que l'on va pouvoir attaquer d'une certaine manière. Donc, Stéphanie Perrin, au micro. Oui, j'aimerais intervenir à ce niveau et dire que certaines procédures qui ont été développées par l'ICANN ne reflètent pas toujours les lois de respect de droits de l'homme au Canada. Nous avons la Cour suprême qui s'est penchée là-dessus et qui a dû interpréter certains points que doivent faire les forces de l'ordre pour avoir accès justement aux noms et adresses, aux coordonnées de ces personnes. C'est important d'y répondre. Et selon nous, nous avons des termes forts, nous avons un droit à l'anonymité. Donc, il me semble qu'il y a un débat à l'ICANN qui est fort. Et il y a eu le rapport du Conseil de l'Europe qui parle beaucoup de droits de l'homme, de liberté d'expression, de respect de la vie privée. Et il me semble que nous allons devoir revoir un petit peu certains cadres juridiques au niveau de nos pratiques. Les forces de l'ordre, ils peuvent avoir un avis judiciaire d'un juge et... obtenir l'identité de certaines personnes, si c'est nécessaire. Mais je crois que certaines personnes ne seront pas satisfaites de cela. Le secteur privé, la propriété intellectuelle, les juristes de propriété intellectuelle, les personnes qui assurent la sécurité privée de l'Internet pour les entreprises privées. Donc, ça, c'est une grande question sur les lois qui protège la vie privée et l'anonymisation. Donc, je ne serais pas surprise qu'on doive réécrire un petit peu ces termes. Donc, je m'appelle Cathy Kleiman, je suis très heureuse d'être ici. Merci, Holly Reich, de toutes ces excellentes explications. Dave, je ne crois pas que le point numéro 1 répond à vos préoccupations. J'aimerais revenir un petit peu en arrière. Pour vous expliquer cela, voilà quelle était notre intention. Parce que on ne pensait pas qu'il y avait d'ambiguïté par rapport à ces services anonymisation, enregistrement fiduciaire. On doit relayer tous les changements au RA. C'est ça ce que cela dit. Il y avait une boîte qu'on pouvait cocher, ne nous renvoyez rien, ne m'informez de rien. Là, maintenant, nous devons relayer ces changements au RA. Donc, il y avait beaucoup d'informations qui étaient perdues dans le processus. Vous savez, ça dépend si ça vient de l'ICANN. Le client, donc, d'un service d'anonymisation aura la possibilité d'obtenir beaucoup plus d'informations provenant de l'ICANN, provenant des différents changements au RAA. Donc, en effet, il s'agit de lignes de conduite que j'essaye de clarifier. Moi, ce qui m'inquiète un petit peu, la manière dont nous travaillons actuellement au niveau du respect de la vie privée, en ce qui concerne le maintien de l'ordre, en ce qui concerne les activités criminelles sur l'Internet, je crois que cela ralentit beaucoup les choses avec l'anonymisation et l'enregistrement fiduciaire. On ne peut pas aller vite. C'est un frein, véritablement. Il faut bien le comprendre. Il faut bien que la commission le comprenne, que le groupe de travail le comprenne. Nous voulons pas qu'il y ait d'hameçonnage. Et parfois, on doit jouer en seulement quelques heures et retirer un site, par exemple, un domaine qui fait de l'hameçonnage. On doit réagir très rapidement. C'est un monde où la vitesse compte beaucoup. Donc ça m'inquiète un petit peu. Je sais, et vous le savez, que ces robots sur le réseau sont vraiment problématiques et très efficaces, et il faut absolument faire le maximum pour assurer une sécurité par rapport à ces robots informatiques. Donc, il y a des personnes qui sont très qualifiées pour protéger cela dans les bureaux d'enregistrement, et on peut avoir seulement 24 heures, et parfois il faut suspendre un service en 24 heures, parce que sinon le robotnet va réussir à continuer son travail malicieux, malfaisant sur l'Internet. Donc, c'est pas fait avec des services judiciaires. Nous réagissons très rapidement. Je crois pas qu'un juge puisse donner en 4 heures l'autorisation, par exemple, de limiter un site ou quoi que ce soit. Oui, merci de votre contribution. Ça va nous permettre de renforcer un petit peu notre travail et les termes que nous allons utiliser. Ça va être très utile, Oli Reich au micro, très utile pour continuer notre travail, avoir le point de vue de tous, des forces de l'ordre, de la sécurité, de l'Internet. Je dois aller assez vite maintenant parce que nous avons de moins en moins de temps. Donc nous revenons à notre transparence. Ça, c'est nos premières conclusions provenant du GNSO. Voilà donc où nous en sommes. On va se réunir vendredi et on va essayer de trouver des conclusions, premières conclusions, c'est comme cela que je les appellerai, des conclusions intérimaires. Donc, si vous êtes le client d'un service d'anonymisation et d'enregistrement fiduciaire, eh bien, la situation où il y a une grande difficulté à transférer est la suivante. Lorsque il y a un client de service qui veut absolument que l'on respecte sa vie privée, là, ça peut poser des problèmes et nous devons travailler à ce problème. Comment transférer d'un service à un autre sans révéler des détails, sans révéler les identités? Et la réponse pourrait être qu'un service anonymisation enregistrement fiduciaire soit accrédité et qu'il y ait un processus d'homologation ou d'accréditation qui permette de garder un grand anonymat.
Un autre problème est la question de la révélation, hein, ce que cela signifie, ce que cela demande, quels sont les détails qui sont vraiment révélés et dans quelles circonstances. On travaille à cela pour le moment, mais il semblerait qu'il y ait des cas où lorsque le bureau d'enregistrement a reçu une demande, il commence sur une base de cas par cas et ensuite il va demander ce que l'on appelle des évidences de des preuves de prima facie, mais dans certains cas, les informations qui indiquent que la personne demande cette que la personne qui correspond à cela est donc une personne qui n'est pas qui est inconnue. Nous travaillons sur la définition de cela pour voir si le client a un certain temps pour répondre ou pas, s'il a le choix de répondre ou pas. Voilà, ce sont les possibilités que nous avons. Nous passons aux alternatives du groupe de travail des experts. Lorsque le Conseil a décidé en 2013 de passer à une spécification pour les services donc d'anonymisation et d'enregistrement fiduciaire, ils ont dit qu'il fallait penser à une autre manière de gérer les prérequis ou les nécessités pour ce type d'informations de contact et pour qu'elles soient donc offertes ou conservées. Est-ce qu'il fallait repenser l'ensemble de la structure du WHOIS? Ça, c'était la question. Et donc, ça, c'est la un dessin de Carton Samuel et de ce qu'il disait, en tout cas. Et on a recommandé un modèle complètement différent dans les discussions sur le WHOIS. Il y a eu beaucoup de discussions, non seulement sur où est-ce que nous en sommes dans le domaine des services PP, où est-ce que nous en sommes au niveau du groupe de travail des experts et de leurs recommandations. Est-ce que ces deux choses correspondent? Est-ce qu'il faut modifier, avancer dans ces deux secteurs? Est-ce qu'on va demander au bureau d'enregistrement à certains points de changer le système et d'ajouter de nouvelles spécifications et très peu de temps après de rechanger le système de manière radicale pour donc aborder le concept proposé par le groupe de travail des experts, c'est-à-dire une base de données très grande dans laquelle on ferait de gros efforts pour la vérification de toutes les données. Et on ferait une caractérisation des données qui seraient publiées, qui seraient révélées et les autres qui ne seraient pas, de façon à être cohérent. Donc, dans le service de PP, dans le groupe de travail service de PP, c'est-à-dire anonymisation et enregistrement fiduciaire, nous pensons qu'il y a peut-être une solution différente pour voir comment on peut donc travailler dans ce domaine. Il y a eu beaucoup de discussions dans les sessions finales de travail sur le WHOIS lundi. Et comme nous n'avons pas le temps de discuter, je vais quand même laisser un petit peu de temps pour les questions et les réponses. Mais est-ce que James a quelque chose à ajouter? Non. Merci, je n'ai rien à ajouter, dit James. James prend la parole. Peut-être que c'est une plaisanterie que je fais, dit James Bladel. Le problème de WHOIS, c'est un problème qui existe depuis que je suis étudiant. C'est un problème qui continue à exister. Donc, je me demande, je vois que vous êtes plus en âge d'aller à la... Vous n'êtes plus des étudiants, mais je vois que le problème continue hein, à exister. Donc, en tout cas, c'est une blague que je fais, hein. Je dis qu'on reconnaît les nouveaux arrivants à l'ICANN parce qu'ils ont toujours des grandes idées pour arranger le WHOIS. Voilà ce que je dis. En tout cas, je crois qu'il faut comprendre toute la complexité du WHOIS, quels sont les points communs qui existent, non seulement dans le domaine de l'anonymisation et des enregistrements fiduciaires, mais aussi et la question de surveillance et les questions de questions sociales qui peuvent surgir dans l'Internet hein, et qui peuvent ensuite se répandre dans notre système écosystème en ligne. Et du point de vue des fournisseurs de services, je pense que nous ne voulons pas héberger de mauvais acteurs, des délinquants, mais il y a aussi un grand désir de la part des domaines et de toute la communauté en général d'avoir un certain degré d'amnésie au sein du WHOIS. Hein. Donc, même si ce sont des délinquants, hein, on comprend leurs intentions avant qu'ils fassent quelque chose de mauvais. Hein, mais bon, c'est un espace étrange. Hein. Donc, on essaye de voir comment résoudre cela, mais on a du mal. C'est un défi lorsque l'on sort d'un environnement automatisé et que l'on veut mettre ce système en place, c'est très compliqué. Donc, je pense que notre travail va dans la bonne direction. Je pense qu'à l'origine, je me faisais personnellement beaucoup de problèmes concernant les fournisseurs de services et je dirais qu'en tant que consommateur, j'utilise nos services d'anonymisation et d'enregistrement fiduciaire. J'ai raconté que quand je suis allée à Buenos Aires, personne ne pouvait croire que j'étais un représentant de registre. Et pendant la réunion de Buenos Aires, j'ai vu 18 appels téléphoniques sur mon téléphone portable. On me demandait ce que je faisais, est-ce que je voulais des services web, etc. Donc, j'ai dit voilà. Et on a une réponse à cela. Je ne veux pas recevoir ce type de communication ou de messages non désirés. Donc, quelqu'un comme Dave dit, je dois envoyer ce message à la personne à laquelle ce message est destiné. Donc, comment réconcilier ces deux positions? Dave, c'est une a raison. Les messages qu'il a ont une bonne intention finale. Et il y a beaucoup d'autres gens qui ont peut-être des intentions un peu moins honnêtes. Donc voilà. Et une des choses que nous avons analysé dans ce groupe de PP, de services PP, et les nécessités de ce système devraient être indiquées. D'abord, comment créer un compte, dire qui on est. On devrait empêcher certaines personnes d'accéder à ces outils. Je pense que je pense qu'il y a eu des thèmes. À l'origine, on disait que seulement des personnes naturelles et des entreprises devraient avoir accès à ces services. On a revu cela. C'est pas une bonne idée. Les entreprises ont de nouveaux produits, et des fusions, etc. Et on sait que lorsque Apple lance un nouveau produit, tous les domaines vont essayer de voir comment ils peuvent enregistrer un nom de domaine qui soit enregistré à Apple, par exemple, à ce produit d'Apple. C'est ce qui se passe dans le monde réel. Voilà, c'est ce qui se passe vraiment. Mais je pense que nous faisons des progrès. Et je dirais que je ne peux pas encore dire que nous sommes parvenus à une bonne idée pour arranger le système de Whois. Evan et Stéphanie veulent prendre la parole. Et ensuite, nous sommes en retard. Bien. Donc, après Stéphanie et Dave, on arrête. On termine notre réunion. Merci à tous d'être venus. C'est un problème très important et très vaste. Et toutes les contributions sont les bienvenues. Stéphanie, Dave, et ensuite on passe à la prochaine session. Bien. Juste quelques commentaires. C'est Stéphanie Perrin qui prend la parole sur le groupe de travail d'experts auquel j'ai participé. C'est un rapport énorme que je vous recommande à lire. Et il y a eu un consensus avec lequel je n'étais pas d'accord sur une série de points clés, mais nous allons limiter ce qui concerne le risque. Il y a beaucoup de points avec lesquels je ne suis pas d'accord. D'abord, il faut qu'il y ait des lois de protection. Ces lois existent, il faut les utiliser. Le risque pour l'utilisateur final n'a pas été évalué correctement dans son ensemble. Et nous avons une responsabilité publique au sein de l'ICANN de faire cela, justement. Et donc, je pense que le travail sur la mise en œuvre du groupe de travail d'experts et son rapport va bientôt commencer. On va voir quelles sont les questions et qui demandent davantage de travail. Je pense que c'est important d'analyser tout cela. Il y a eu une session Whois l'autre jour, mais ce que nous n'avons pas eu, c'est une approche de Whois en fonction de l'utilisateur final. Et je pense que James l'a bien dit. Et maintenant, on parle de risque, de l'analyse de risque et de la projection et de la surveillance. pour des objectifs de profil de personnalité, pour limiter la liberté de parole, l'association, la liberté d'association. Il y a beaucoup de choses ici qui sont en jeu. Et d'un point de vue de données, il nous faut vraiment analyser ce que nous allons mettre dans cette réglementation. Merci beaucoup, James, à parler du besoin de commencer un programme qui en est encore à son état pilote pour une série de CCTLD, de registres et de bureaux d'enregistrement de TLD. On parle actuellement avec les bureaux d'enregistrement de ce programme. C'est un programme volontaire dans lequel il y aura... Donc, dont l'objectif sera dans le futur, de faire venir des gens de la société civile et d'autres secteurs pour nous aider à réaliser ce processus de suivi. Mais nous voulons soumettre une attestation sur donc des enregistrements malicieux. Les personnes pourront dire « j'ai confiance dans cette personne parce que cette personne est contrôlée par des personnes en qui j'ai confiance ». Et nous allons faire un suivi de ce type. C'est un modèle vraiment intéressant si vous ne l'avez pas vu. Et entrez en contact avec moi, je vous montrerai des présentations que j'ai faites sur le APWG. Et c'est très, très important. Et je pense que si on arrive à trouver un bon modèle pour... arriver à évaluer les personnes. Je pense que c'est important dans différents aspects concernant l'accès au WHOIS et le WHOIS en général. C'est très important. Merci, c'est fantastique. Dit Holly Wright, nous allons reprendre cela dans la discussion concernant donc les services PP de anonymisation et enregistrement fiduciaire. Je vais maintenant donner la parole à Evans. Merci à tout le monde pour cette session. Et Evan, vous avez la parole. Evan Lebovitch prend la parole. Merci beaucoup. Bien, nous allons changer de sujet. Nous allons parler de quelque chose de tout à fait différent. Nous allons parler des alternatives et des innovations dans le domaine du DNS. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, rapprocher? Bien. Donc, je travaille. Je suis un petit peu dans une situation compliquée parce que je dois remplacer Garth Brule qui n'a pas pu venir à Los Angeles. Donc, je vais essayer de vous présenter le travail de Garth et David va m'aider. Il a proposé de m'aider et à remplir les blancs dans ma présentation. J'espère que je vous encourage, j'espère que cela ira, je vous encourage à m'aider. Cela a été, personnellement, ça a été un problème qui m'a beaucoup intéressée. J'ai participé au groupe d'élaboration de métriques, de paramètres sur les nouveaux GTLD. Et une des choses qui est importante lorsqu'on parle de paramètres, lorsqu'on parle de compétition entre les nouveaux GTLD, entre les nouveaux registres, bureaux d'enregistrement, un type de business, une des choses que nous avons constatées, c'est que la compétition, ce n'est pas seulement entre bureaux d'enregistrement et entre registres, mais aussi entre les DNS. Et pour les utilisateurs finaux, la façon de trouver les informations. Le DNS va permettre d'offrir des moteurs de recherche, etc. Mais aujourd'hui, nous allons parler des alternatives au DNS. Bien. Alors, la diapo suivante, s'il vous plaît. Bien. Le problème du DNS ou pas de DNS, les sites qui utilisent des adresses IP, et le nombre de DNS qui donc fonctionne sur le web. La question, si vous n'utilisez pas le DNS pour arriver à un contenu web, qu'est-ce que vous allez utiliser? Voilà la question. Bien, alors, ce que nous allons essayer maintenant d'aborder aujourd'hui, c'est les racines alternatives, les domaines sans point, le concept de domaine Tor et la sous-structure du DNS et d'autres choses des domaines de deuxième qui concernent les domaines de deuxième niveau. Bien, donc la question que nous allons essayer d'aborder et nous allons essayer d'en discuter, si nous avons le temps de le faire, c'est comment ICANN aborde tout cela, comment il y a et quels sont les acteurs qui sont concernés ici, comment est-ce que le consommateur va gérer tout cela, va aborder ces questions. Voilà, ce sont donc des points qui sont importants. Certains pays ont créé leur propre système dupliqué. Le problème des domaines mondiaux va aussi avoir un impact ici. En tout cas, je pense qu'il est important de souligner, et je pense qu'il est important qu'ICANN sache que l'Internet a une manière de détourner les obstacles et le DNS est devenu un obstacle pour le public en général. Et à ce moment-là, il y aura des manières de détourner cet obstacle que représentera le DNS si c'est le cas. Bien. Lorsqu'on parle d'autres structures, je vais donner la parole à Dave qui va nous donner quelques perspectives historiques et une idée. Et parce que beaucoup de tentatives ont été faites pour travailler de manière parallèle à ICANN. Dave, vous avez la parole. Et Dave Pesicello, oui, ce n'est pas un thème nouveau, je dirais. De fait, lorsque j'étais un boursier à ESSAC en 2006, j'en ai entendu parler. Et le rapport figure dans le document de SSAC, le rapport de SSAC de numéro 49, et je crois qu'on en est au 60e. Hein. Bien. Alors, je vais vous parler du concept en lui-même. Au lieu d'aller à la racine autoritative publiée par IANA avec VeriSign et le NDIA et les services de première demande dans le DNS public, vous allez aller ailleurs. Bien. Alors, où est-ce que vous allez? Cela dépend de la motivation de l'opérateur concernant cette solution alternative, cette racine alternative. L'objectif ici est de fournir quelque chose à l'extérieur de la liste normale des TLD. Et donc, dans le rapport que j'ai fait et que je vous ai envoyé, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des études. Et c'est important parce que ça reste en opération. J'ai classé les racines alternatives en 5 groupes principaux. Le premier, c'est le système de noms privés. Vous connaissez le problème de la collision de noms. On est en train de créer des racines avec une organisation qui est leur propre DNS à partir de la racine au sein de leurs propres organisations. Donc, si vous voulez utiliser le DNS, vous pouvez le faire. Si vous voulez ne pas utiliser le DNS public, vous pouvez le faire. La question pour laquelle nous avons cette collision de noms actuellement, c'est parce que certains des noms qui étaient des noms privés pour ces organisations ne sont plus privés. Il y a aussi un système de nom expérimental et on l'utilise pour une période de temps plutôt courte avec des objectifs précis et on est rentré dans un processus de publication de l'ICANN, de la racine autoritative. Il y a eu aussi les concurrents commerciaux, des personnes qui au début, dans les années 2006 par exemple, voulaient ou imaginaient qu'ils allaient pouvoir se présenter pour avoir une candidature pour un nouveau TLD et donc ils ont fait leur propre structure, tout simplement. simplement. Et puis, il y a aussi des TLD de protestation. Ce sont des groupes de personnes qui disent « Je n'ai pas confiance dans ICANN ni dans le gouvernement américain. Je ne veux rien avoir à voir avec eux et avec la racine autoritative, donc je vais en créer une moi-même. » Le système de TLD, donc, est qu'il y a des bonnes raisons pour que certains pays veuillent contrôler les racines et contrôler le contenu et différentes communications de leurs citoyens. Il y a différents problèmes, hein, je ne vais pas les détailler tous, mais du point de vue de Alain ou de la perspective de l'utilisateur, le problème c'est qu'on a du mal à différencier les racines alternatives et racines publiques. Et beaucoup de ces racines alternatives, si vous regardez la zone racine, ont des noms qui sont dans la liste des candidats de TLD. Ils ont des noms et que les personnes voulaient utiliser, qu'ils n'ont pas pu obtenir auprès d'ICANN. Ils ont dit, OK, je vais les utiliser moi-même. Donc, il y a beaucoup de certaines rébellions adolescentes dans ce domaine. Les gens disent, OK, je vais obtenir ce que je veux. Le problème pour les utilisateurs, c'est qu'il faut avoir certains logiciels additionnels dans votre ordinateur pour arriver à cette racine, parce que beaucoup de systèmes opérationnels, que ce soit sur les ordinateurs traditionnels ou sur les systèmes modernes, ont un système basé sur le DNS, un résolveur qui va recevoir des informations lorsque le système opérationnel commence et est lancé. Et il dit, voilà, quels sont les services de racine. Il va vous parler des services de racine de Yana, pas les services alternatifs. Donc, ces fournisseurs alternatifs ont des services qui sont intégrés ou dans la racine de l'ICANN ou bien certains opèrent d'une autre manière. Et dans les recherches que j'ai faites, je n'ai pas pu trouver de ces systèmes qui ne fonctionnent pas adéquatement sans utiliser les services d'ICANN. Donc, il y a des personnes qui, à l'époque, ont fait cela pour des raisons politiques, qui cherchaient à avoir une racine qui serait différenciée de la racine qui était publiée, par exemple, qui était publiée par Yana. En tout cas, c'est difficile de rentrer dans cet espace. Ce n'est pas un espace dans lequel on peut avoir une certaine influence pour la fragmentation, à l'exception des racines qui sont motivées par des questions politiques. Mais même dans ce domaine, la complexité qui existe actuellement pour les entités politiques qui veulent se séparer, qui veulent avoir une racine séparée, est augmentée par la présence de la zone signée du DNSSEC, la zone racine. Il est très difficile de faire des changements dans la zone racine et d'avoir la signature et que cette signature fonctionne. Donc, il faut vraiment contrôler et tout ce qu'il faut vraiment vouloir contrôler ce que vos citoyens peuvent utiliser pour donc vouloir avoir ce type de service. Si on s'attend, ça risque de ne pas fonctionner dès qu'une personne va sortir de vos frontières pour les pays qui utilisent ce type de choses. Donc, je ne pense pas que ce soit un problème en particulier, un problème qui soit au-delà, disons, de ce que je viens de vous décrire. Merci. Merci, Dave. Est-ce qu'on peut passer à la prochaine diapo? Bien, donc, je ne vais pas passer trop de temps sur ce domaine. Olivier, vous avez la parole. Merci, Evan. Evan Lebovitch, merci. Olivier prend la parole. Est-ce qu'on peut faire des questions maintenant ou est-ce que vous préférez qu'on attende la fin? Demande Olivier Crépin-Leblon. Evan Lebovitch prend la parole. Olivier, si vous avez des questions à poser à Dave, allez-y. J'ai remarqué une série d'exemples, mais que se passe-t-il pour .nu? Nous n'avons pas fait cela encore. Nous n'avons pas encore parlé, Olivier, donc je ne peux pas répondre à cette question. Donc, comme je l'ai dit, les questions des domaines donc sans point étaient une question qui a donné lieu à beaucoup de discussions au sein de l'ICANN. Il suffit de vous dire, en tout cas, que pratiquement toutes les unités constitutives au sein de l'ICANN sont arrivées à la conclusion qu'il s'agissait d'une très mauvaise idée. Et donc, on a préféré annuler cela. Hein. Bien. Olivier, je vais répondre à votre question maintenant. Je vais donner la parole aux personnes qui vont nous parler de Tor et de technologies similaires. Merci. Je suis Tom McKenzie. Je travaille comme responsable des relations parties prenantes pour le PCFT, Organisation pour la protection et la promotion et le progrès des technologies. Et donc, je suis heureux de vous parler de ces technologies. Et je ne peux pas parler beaucoup de Tor, puisque je pense que les technologies sont différentes. Je ne sais pas vraiment comment les Tor fonctionnent. Excusez-moi, c'est Evan qui parle. Je ne voulais pas vous gêner. Peut-être que Garth et penser parler de Tor, mais il n'est pas là. Donc, si vous voulez, on passe cela. Et parlez-nous de Fragrance. Et ensuite, Olivier nous parlera peut-être de Tor. Olivier prend la parole. OK. Il y a peut-être quelqu'un qui peut nous parler de Tor. Moi, personnellement, je ne peux pas vous parler de Tor. Je n'en sais pas grand-chose, dit Olivier. On donne la parole à Tom. Bien, on en a déjà parlé à d'autres occasions, donc c'est bon. On passe et Tom va nous parler de Fragrance. Qu'est-ce que j'ai, 10 minutes, un quart d'heure? 10 minutes, bien, parfait. Donc, Fragrance, certains d'entre vous ont peut-être entendu parler de ce projet. Je serais curieux d'ailleurs de le savoir. Dans cette salle, est-ce que quelqu'un a entendu parler de ce projet de Fragrance? 1, 2, bon, c'est pas mal. Bien. D'autres ont peut-être entendu parler de ça, mais ne savent pas de quoi il s'agit. Hein. Donc, beaucoup de gens se demandent quelle est cette créature hein, et que fait cette créature au milieu des programmes de GTLD. Et d'autres n'ont jamais entendu parler de ce projet. Donc, mon objectif ce matin est de vous parler un petit peu donc, de cela et de vous expliquer pourquoi nous sommes ici à Los Angeles et pourquoi je suis ici assis à cette table avec vous ce matin. Donc, la première question, pourquoi ici à Los Angeles? Eh bien, pour nous, c'est plus simple. Hein, c'est la question la plus simple à répondre, pardon. Nous sommes ici à Los Angeles parce qu'il y a la réunion de l'ICANN et parce que ce projet de Fragrance inclut un nouveau TLD, le point Fragrance. Et donc, dans ce sens, nous sommes ici et nous participons à la discussion et dans laquelle les parties prenantes de registre... Nous sommes un membre des parties prenantes des registres. Nous voulons suivre ce processus pour la délégation des GTLD. Le DOT Fragrance a été délégué au mois d'avril de cette année. La deuxième question, pourquoi est-ce que je suis ici, assis à cette table? Et c'est la question la plus intéressante, hein, je dirais, ici. Et donc, je vais y répondre. Bien. Pour comprendre ce projet de Fragrance, il faut comprendre que nous sommes un TLD, nous sommes un domaine de premier niveau. Mais point Fragrance, le point le plus important à comprendre, c'est que nous n'allons pas exploiter en aucune manière les noms de domaine de point Fragrance. Le seul objectif de point Fragrance était d'acquérir ce point Fragrance pour assurer une infrastructure et le serveur de nom et l'infrastructure dans laquelle la technologie, qui est la technologie Fragrance, pourra être déployée et construite. Et cette technologie de Fragrance est une technologie qui va permettre la publication d'un nouveau type de site, des sites Fragrance, Hein, ce seront des petits sites, quelque chose de différent de ce que sont les pages web. Ce sont des petits sites qui auront leur propre système d'adressage. C'est pour ça que nous sommes ici. Et ce sera un système d'adressage différent. Et ils vont exiger un navigateur séparé, spécial, qui s'appellera le navigateur Frogans, pour pouvoir naviguer dans ce site Frogans. Donc, je pense que c'est assez important. J'ai été intéressée d'entendre la présentation qui m'a donc précédée sur les racines alternatives, hein, parce que nous ne sommes pas une racine alternative. Il n'y aura pas de conflit de aucun type avec le système de domaine dans notre cas. Hein. La technologie de Frogans est donc dans le DNS et c'est un métasystème, une technologie qui sera au-dessus du système de DNS. J'ai des diapos, voilà. Je peux vous les montrer rapidement. Cette première diapo, vise à vous montrer à quel endroit dans l'écosystème de l'Internet nous allons donc placer cette technologie Frogans. En haut, nous avons une infrastructure. Au milieu, vous avez ICANN et le DNS. C'est un schéma, bien sûr, simplifié. C'est une division de l'Internet en différentes couches. Et en général, il y a 5 ou 6 couches. Mais ici, nous en avons défini 3. Et nous voyons au haut donc de ce schéma comme une nouvelle couche avec des applications génériques et cela sera divisé si l'on descend à travers le TLD cela sera divisé.
Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne, je vais essayer de l'expliquer rapidement. Donc point Frogans sera utilisé pour le nommage. Et c'est comme ça que fonctionnerait donc cette technologie Frogans. Délégation de l'ICANN au P3FT le 19 avril 2014 et nous allons jouer notre partie, travailler à cela. Il faut que nous travaillions en confiance. Je crois qu'il y a beaucoup de confiance de la part du OP3FT. Nous voulons faire partie du débat qui se déroule multipartite avec le modèle de gouvernance Internet dont nous parlons actuellement. En ce qui concerne ICANN et AFNIC, l'AFNIC, ça c'est le domaine français, c'est le registre français. Pour .fr. Donc, ils n'auront pas beaucoup de travail, ils n'auront pas beaucoup de noms. Il y aura 5 ou 6 adresses qui seront déléguées sur AFNIC. Donc, merci beaucoup. Transparent suivant. Ça, c'est mes collègues techniques qui m'ont donné ça ce matin. Donc, je ne suis pas tout à fait au courant. Je n'ai pas préparé de notes là-dessus. Cela montre les différences clés. Non, je ne vais pas couvrir cela parce que je ne vais inventer beaucoup trop. Donc là, c'est un transparent sur ces sites Frogans pour publier du contenu en ligne. Donc, ils pourront avoir n'importe quelle forme. Ils seront simples. Ce seront des sites très simples. Ça, c'est important. Ils seront très légers, très simples à concevoir, à développer. Et ce qu'il faut savoir au sujet des sites Frogans, c'est que pour les développeurs, ce qui est très bien, c'est que ils vont uniquement devoir développer leur site une seule fois et ensuite ils sont accessibles sur toutes les différentes plateformes, sur tous les différents types d'appareils qui se connectent à l'Internet. Et donc, Ce sera très très bien pour les développeurs. Nous avons un langage simplifié, un langage markup simplifié, donc transparent suivant. C'est vraiment multiplateforme. Ça peut être donc, comme je le disais, sur les mobiles, sur tout type d'appareils. Ça va ressembler un petit peu à ça, un site Frogan. Ils seront identiques que vous soyez sur votre portable, que vous soyez sur votre tablette ou sur votre ordinateur de bureau. Donc il y aura un petit peu de zoomage, on pourra zoomer un petit peu, vous pouvez minimiser la taille de l'écran, vous pourrez le faire, et le contenu s'ajustera. Voilà donc ce qui est très intéressant pour vous ce matin, c'est le système d'adressage. Nous avons, et je suis ici à cette réunion cette semaine, avec certains de mes collègues qui travaillent donc aux spécifications techniques pour ce système d'adressage, système Frogans. C'est donc un système qui se base nous avons les 10 langues les plus utilisées dans le monde qui pourront être utilisées pour faire des adresses de sites Frogans. Donc, vous avez des exemples au tableau. Donc, la structure des adresses est assez similaire au système DNS. Regardez en haut, caractère latin, vous avez le nom du réseau, puis le nom du site. Et vous avez la même chose pour toutes les langues, sauf pour l'arabique et l'hébreu, l'arabe et l'hébreu, pardon, puisqu'ils se lisent évidemment de droite à gauche. Donc, si vous comparez cela au DNS, eh bien, c'est un petit peu similaire au domaine de premier et de deuxième niveau. C'est très extensible. Vous aurez la possibilité d'avoir plusieurs niveaux de noms de domaine avec ce système, mais vous ne pourrez pas aller plus loin que le nom du site. Ce sont des adresses courtes et simples. Donc, on a déjà nos caractéristiques techniques pour cela. On a travaillé avec le groupe IDN à ce sujet. Nous avons beaucoup échangé ensemble. Voilà. Donc, je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire pour vous présenter rapidement ce type de nom de domaine, cette nouvelle technologie. Ça, c'est la mission de l'OP3FT, nos principes visant à promouvoir, protéger et assurer le progrès de l'Internet. Donc, c'est un petit peu comme le modèle ICANN. Vous pouvez voir sur notre dernier transparent, ça, c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé dans différents forums. Nous allons établir des communautés dans le monde entier pour obtenir un retour d'informations sur ces technologies, pour tenter de les améliorer. Ces collectivités, nous avons commencé à les établir. Elles seront basées sur des universités. Et ça, ça vous montre sur ce transparent que nous avons quelques acteurs dans l'écosystème de l'Internet qui s'intéresse beaucoup à cette technologie. Donc, vous avez sur la gauche des bureaux d'enregistrement qui adoptent déjà cette technologie. Ils ne se sont pas encore au point de vendre ces sites web Frogans, mais on parle de cette possibilité d'ici peu. Et vous avez donc des centres de résolution des conflits avec les centres accrédités, donc vous avez l'ADN, RC pour l'Asie et le Forum pour les États-Unis. Donc, vous vous rappelez de ces entités qui permettent de résoudre les conflits. Donc une nouvelle fois, c'est un résumé de la technologie. On en a assez parlé. Je vous remercie de votre attention. Et si cela vous intéresse, vous pouvez creuser un petit peu en allant sur ces différentes adresses Internet. Donc oui, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une limite à la longueur du nom du site, Dave? Attendez, vous devez vous identifier avant de prendre la parole.
Oui, je suis de ISAC. Et est-ce qu'il y a une limite au nom du site? Donc de l'ISOC, dès vos micros, l'ISOC, dès vos micros. Oui, il y a une limite, en effet. Je ne me rappelle plus exactement quelle est cette limite, mais je crois que c'est 30 caractères à peu près pour le nom de réseau, et je crois que c'est le même nombre de caractères pour le nom de site. Je dois revenir vers vous pour vous donner ces précisions. Mais il y a une limite, c'est exact. Dave, allez-y. Oui, c'est très intéressant. Oui, Dave Pissatello. Et c'est tout à fait intéressant. C'est un petit peu comme les applications, comme les apps. Il y a des clients qui pourraient beaucoup retirer de cela. C'est un petit peu comme notre système DNS. Ça nous permet d'aller à cet environnement. Il y a des conventions de nommage. Donc ça ouvre un nouveau monde. Ça, c'est fantastique. Et il me semble donc que cela n'est pas en rapport avec un navigateur. C'est une véritable nouvelle communauté. Donc c'est pour chaque système d'opération, n'est-ce pas? Oui, c'est exact, c'est exact. Oui. Tom McKenzie au micro. Oui, c'est son propre univers, si vous le voulez. Et ça va fonctionner sur différents outils, sur différents appareils, les mobiles et ainsi de suite. Et nous avons ces navigateurs Frogans, donc qui seront nécessaires pour avoir accès à ces sites. Donc merci beaucoup de ces informations. Nous avons Ken, Olivier, vous voulez la parole, Olivier Crépin-Leblond. Oui, n'oubliez pas que nous n'avons plus beaucoup de temps. Oui, je serai très rapide, donc. Vous avez parlé de l'aspect multilingue et je vois une extension des IDN, en fait. Donc, est-ce que vous allez travailler de la même manière que pour les IDN, pour les variances, par exemple? Oui, ça, c'est une question très intéressante. Et on est ici, justement, pour régler ce type de questions à l'ICANN. On parle avec le groupe IDN. Tous en mon contact, nous avons été à leur réunion. Mon collègue Benjamin Pfister s'y est rendu et nous avons donc développé nos propres règles pour ce système d'adressage multilingue. Ce n'est pas exactement la même chose que pour les IDN, hein, les règles développées par l'ICANN, mais nous avons été très inspirés par le travail qui a déjà été réalisé par l'ICANN. On ne peut pas encore aujourd'hui dire, nous sommes une petite organisation, que nous ayons assez de ressources comme l'ICANN, par exemple, pour avoir la possibilité d'avoir accès à de nombreux linguistes et ainsi de suite. Mais les échanges avec le groupe et avec ce groupe de l'ICANN ont été très intéressants. Et donc, ce que nous faisons pour notre système d'adressage pourra être utile pour, j'aimerais rester modeste, hein, rester humble, mais nous espérons pouvoir contribuer, si possible, aux avancées multilingues de l'ICANN, et nous sommes toujours prêts à partager nos recherches, nos avancées, nos succès. Oui, Holly veut prendre la parole. Je ne vois pas Ken Hansen dans la salle. Est-ce que quelqu'un est capable de prendre sa place pour parler des domaines de deuxième niveau ou de Tor? Donc, je ne vois personne. Donc, Holly, puis Gisela, une question en ligne. Holly, allez-y. Holly Reich. Moi, je suis d'accord avec Dave Pistello. Nous parlons pratiquement d'une application. Ça ressemble beaucoup à une application. Comment est-ce que vous distinguez dans votre diagramme, est-ce que vous distinguez ces infrastructures? Vous avez les protocoles, vous avez tout cela, vous nous l'avez montré. Il me semble que ça se repose. Oui, c'est un petit peu comme une application. Ça va ressembler à une application. Donc pourquoi ce n'est pas une application? C'est la question. Oui, bonne question. Je dois y réfléchir un petit peu. Je ne sais pas si je peux vous donner une bonne réponse tout de suite, mais oui, en effet, ça ressemble beaucoup à une application. Sur un portable, notamment, sur un téléphone mobile, vous allez donc, avec Froghands, oui, en effet, ça sera une application. Je peux dire que oui, on aura une application Froghands, disponible peut-être sur le magasin d'Apple Store ou quoi que ce soit. Et oui, ce projet, on en a parlé avec Apple, avec Google, avec tous les magasins qui vendent ces applications et avec d'autres navigateurs. Oui, ça va ressembler à une application. Vous allez aller sur Froghands, vous allez pouvoir accéder à tous ces sites sur un ordinateur. Ah oui, bon, je me remets à parler français, étonnant. Donc, sur un ordinateur de bureau, vous allez devoir télécharger un player qui va ressembler à une application. Oui, ça va être un petit peu comme une application. Ça va être en fait un logiciel, un petit logiciel. Un logiciel qui va... Donc... Evan Lebovitch au micro, oui. Oui, en effet, est-ce qu'il va y avoir des plugins? Ça requiert beaucoup de travail. Donc, l'utilisateur final doit faire beaucoup quand même. Oui, si je comprends bien les applications de la zone alternative, je crois que le problème qui se posait, c'est qu'ils étaient en compétition, en concurrence avec les mêmes ressources IP, protocole Internet. Donc, les adresses qui étaient résolues, les adresses IP. Et il y avait un potentiel de conflit par rapport à la structure ICANN. C'est pour cela qu'on a besoin d'un seul système à l'ICANN. Mais dans l'univers Froghands, nous ne sommes pas en concurrence. On n'utilise pas un numéro IP. Dans ce projet, c'est un URL qui est utilisé. En effet, c'est pour ça que ça se repose sur le système. Donc, c'est clair, nous ne sommes pas une alternative pouvant poser des problèmes de concurrence avec l'ICANN. Nous avons une question sur l'Internet qui sera lue par Gisela. Oui, nous avons une question de John McCormack. De stats.com. Question à Tom. Est-ce que Froghands est une solution pour tous nos problèmes? Oui, je crois que nous sommes une solution. Froghands est une solution qui fournit. Nous fournissons une solution et c'est une possibilité que nous offrons. Une nouvelle possibilité pour répondre à un besoin, je crois, à un nouveau type de site. Les calculs ont été effectués lors du processus de développement du projet. Il y a aujourd'hui des millions, des centaines de millions de personnes qui sont en ligne avec un site web. Et pourquoi créer quelque chose de différent, me direz-vous? Eh bien, ce que nous avons calculé avec Froghands, c'est que il y a énormément de personnes qui ne sont pas encore en ligne. Et parmi ces personnes, il y a des petites entreprises qui n'ont pas le temps, les ressources, et qui n'ont... Ils pensent qu'ils n'ont pas besoin d'être en ligne. Si vous pensez à quelqu'un qui... loue des vélos sur le bord de mer, eh bien, il peut se dire « tout va bien, je n'ai pas besoin d'être en ligne ». Et avoir un site web, c'est cher, il faut le maintenir, il faut assurer sa maintenance et ses modifications. Mais le coût sera de 6 euros. Vous pouvez acquérir très rapidement, très simplement, un site Frogan, et avant la fin de la journée, vous aurez votre... Ça ressemblera à une application, comme on l'a dit, oui, sur votre téléphone mobile. Ce sera disponible sur les iPhone Apple, sur les ordinateurs de bureau, sur vos tablettes, partout. Et il me semble, c'est en tout cas mon espoir, qu'il y a un marché qui existe pour ce type d'application ou de technologie Frogans, comme nous l'appelons. Donc, je ne crois pas que nous créons un nouveau problème, en tout cas. Donc, merci beaucoup, Jimmy. Jimmy, vous avez la parole ? Oui, bonjour. Jimmy Schultz, à LAC. Pour bien comprendre, où sont ces données ? Où sont-elles emmagasinées ? Lorsque vous recevez donc un site Frogan, ça, l'hôte est sous une URL, une adresse. Donc c'est sur des serveurs. Non, pas nécessairement des serveurs que nous l'utilisateur peut le mettre ailleurs. C'est identifié avec une adresse URL. Bon, alors je ne comprends pas très bien, je suis désolé, mais je ne vois pas le pourquoi on a besoin de nouveaux protocoles, de nouveaux logiciels de clients. Ça existe déjà, donc j'ai un peu de mal à comprendre, mais vous pouvez faire ce que vous voulez. Eh bien, j'espère que la prochaine fois, nous reviendrons avec à une réunion ICANN. Nous serons en mesure de vous faire une démonstration qui vous sera très utile pour vous montrer comment le système fonctionne. Oui, John LePriest au micro. Donc, quel est le problème que vous essayez de régler ? Vous parlez d'opportunités de marketing, ça ne nous intéresse pas. On est là pour résoudre des problèmes. Et je n'ai pas compris cela dans votre présentation. Quel problème êtes-vous ici pour résoudre. Donc, c'est assez différent. Oui, d'accord. Oui, si je peux rebondir là-dessus, Evan Lebovitz. Donc, qu'est-ce que vous essayez de résoudre comme problème, comme difficulté que vous voudriez surmonter ? Oui, sur un mobile, par exemple, ce n'est pas différent de Twitter ou de Vine, ou d'autres applications. Donc, je ne vois pas très bien la différence d'environnement pour la communication. Donc, vous n'avez pas de navigateur, mais vous avez quelque chose de très petit, de très léger, et vous avez des notifications que vous pouvez recevoir. Les banques pourraient utiliser cela, d'accord. Les banques recherchent, en effet, être en mesure de contacter les clients avec des textes automatiques s'il y a des problèmes de sécurité informatique. Donc oui, il y a des possibilités d'utilisation. Il y a d'autres scénarios. Mais ça devient une autre application de sociale, de médias sociaux. Vous pouvez obtenir des bons d'achat. Donc, c'est un mécanisme nouveau, c'est tout. Donc, Evan Lebovitz, donc la question pour vous deux. Donc, Frogans point quelque chose. On aurait pu faire la même chose avec un site Frogans point quelque chose, non ? Donc, vous parlez au niveau technique. Donc, au niveau du marketing, pourquoi il y a tant de gens qui obtiennent des TLD et qui nécessitent et qui achètent des TLD ? Techniquement, nous n'avions pas besoin de points Frogans pour parler des problèmes de nom de domaine et bâtir notre infrastructure. Néanmoins, une décision a été prise au niveau du conseil d'administration de l'OP3FT parce que
Ce TLD envoie un signal. Nous contrôlons tout le système, notre système, y compris l'adressage de l'infrastructure de serveur. Oui, merci beaucoup. Donc, vous aurez donc le dernier mot. On aurait aimé parler plus de Tor. Les personnes n'ont pas été en mesure de venir. Ça a été très instructif, en tout cas. C'est quelque chose qui nous intéresse. Ce sont des tables rondes pour parler d'un DNS innovateur et alternatif, des manières un petit peu différentes. Vous devez comprendre que vous proposez quelque chose de nouveau. Non, je suis très heureux d'être venu, d'avoir pu m'exprimer. Je vous remercie de cette possibilité. Nous avons dépassé le temps imparti de 5 minutes. Ce n'est pas trop grave. Donc, je vais vous laisser repartir dans d'autres réunions. Nous allons commencer tout de suite la réunion mensuelle Naralo. Merci beaucoup. Dans la prochaine